autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, avec Hugo Violas à la réalisation, pour interroger notre rapport au monde et le lien qui nous unit à tous les autres êtres vivants sur Terre. Comment la reconnaissance de notre interdépendance, mais aussi et surtout de notre commune vulnérabilité, pourrait nous donner envie de cohabiter autrement la Terre en toute interdépendance, pour relever les multiples défis sanitaires, écologiques, climatiques, économiques, éthiques, pour promouvoir plus de justice envers les autres, humains, animaux, nature, tous alliés, tous reliés et tous ébranlés, tous à réparer. Mais comment? Autant de questions ouvertes par la philosophe Corinne Peluchon, notre invitée, qui vient de recevoir le prix de la pensée critique Günther Anders, décerné en Allemagne pour l'ensemble de ses travaux. On peut citer La raison du sensible, Élément pour une éthique de la vulnérabilité, Éthique de la considération, Manifeste animaliste, Les nourritures, et son tout dernier ouvrage auquel nous avons d'ailleurs emprunté le titre de cette émission, Réparons le monde. Nous sommes également en ligne avec l'anthropologue Frédéric Keck, auteur entre autres d'Un monde grippé, qui vient de publier Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine. De quoi ouvrir de nouvelles pistes de réflexion en commun et sur nos communs autour de la question comment réparer le monde, puisqu'il s'agit bien de cela. Aujourd'hui, comme nous y incitait déjà hier Albert Camus dans son discours de réception du prix Nobel de littérature en 1957. Bienvenue dans la voix d'Albert Camus.
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.
Empêcher que le monde se défasse, disait déjà Albert Camus en 1957. Je l'entends comme en écho, en résonance à votre Réparons le monde. Corinne Peluchon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, en studio, pour partager vos pistes de recherche et de réflexion. Vous menez depuis plusieurs années en tant que philosophe sur la condition humaine et animale, pour une éthique de la vulnérabilité et pour nous donner envie de penser et de faire la transition écologique. Vous êtes professeur d'éthique et de philosophie politique à l'Université Gustave Eiffel, également membre du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme de Nicolas Hulot. Vous venez donc de publier, Corinne Peluchon, chez Flammarion, un essai en format et au prix poche. Réparons. C'est pas du tout. C'est chez Humaine Science.
C'est chez Rivage.
C'est chez Rivage. Oh là là, Rivage Payot. Alors je rappelle le titre, Réparons le monde, chez Rivage Payot, humains, animaux, nature. Et vous partez de ce constat que faisait déjà Camus en 57, hein, avant qu'on ne parle de crise écologique ou de crise sanitaire, pandémique ou économique, que le monde est abîmé, qu'il faut le reconnaître et que c'est à nous de le réparer. Corinne Peluchon.
Oui, alors je reprends ce terme à une grande tradition kabbalistique de Isaac de Luria qui vient du XVIe siècle, où d'emblée, le fait que le monde soit abîmé, c'est pas nouveau. D'emblée, la création est dans le chaos. Mais moi, c'est vrai que pour le terme réparer est à la fois modeste et ambitieux, et c'est ce qui a été dit par Albert Camus. C'est effectivement la prescience de catastrophes, d'effondrements divers, y compris politiques. Et quand j'ai réuni ces articles et quelques inédits, j'avais surtout cette inquiétude-là. L'idée aussi d'une situation sociale ne permettant pas peut-être d'opérer de faire les changements drastiques parfois qui sont nécessaires au niveau de la production, de la réorientation de l'économie, etc. Mais c'est l'idée, réparons le monde, qu'on va pas attendre un grand soir, une révolution, on ne va pas non plus recoller les morceaux, ni s'en tenir à des compromis ne satisfaisant personne. On va pas non plus penser qu'il y avait un Éden, un passé magnifique, mais on va prendre une à une les activités pour voir ce qu'on garde, ce qu'on perd et ce qu'on veut abandonner, et pour se mettre sur une trajectoire Et en voyant un petit peu comment le faire et initier la transition écologique qui implique un processus du temps et un certain pragmatisme. Et c'est vrai que dans ce recueil de plusieurs articles qui portent essentiellement sur la transition écologique, mais l'écologie est articulée à l'existence, elle est pensée comme une habitation de la Terre et une cohabitation avec les autres humains et non humains. Et bien, dans cette transition écologique, il y a un certain nombre d'initiatives, mais moi aussi, je m'interroger sur ce qui fait qu'il y a un tel écart entre la conscience et l'action, la théorie et la pratique. Puisqu'il y a énormément de rapports sur la transition énergétique, sur tout un tas de choses pour capter le carbone, faire une autre agriculture, etc. Et tant les individus tardent à changer leur style de vie, tant les gouvernements finalement rejettent, quoi qu'ils en disent, l'écologie et la périphérie. Donc moi je m'attachais aux moyens, et ils sont divers, pour combler cet écart entre la théorie et la pratique et faire de la transition écologique non pas seulement un fardeau, mais aussi un projet de reconstruction, même d'émancipation et de coopération, ce qui ne veut pas dire que ce soit facile et que ça se fasse sans douleur.
Mais ça peut donner envie hein, autour de la question, et ça donne envie. En vous lisant autour de la question comment réparer le monde, vous allez donc nous proposer vos pistes en s'adressant, j'ai envie de dire, autant à notre tête, à notre raison, qu'à notre cœur et à notre sensibilité, à notre vulnérabilité, à notre désarroi aussi face aux crises que nous traversons, face à la crise pandémique hein, qui n'épargne personne en ce moment sur la Terre. Comment réparer le monde qui en a tant besoin aujourd'hui? Nous sommes également en ligne avec l'anthropologue Frédéric Keck. Bonjour Frédéric Keck.
Bonjour.
Merci d'être en direct par téléphone avec nous, car vous travaillez vous aussi autour de toutes ces questions en tant qu'anthropologue. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'anthropologie sociale CNRS, Collège de France EHESS, auteur, j'ai envie de dire un brin visionnaire également, d'Un monde grippé, paru en 2010. Alors là, c'était chez Flammarion, je ne me trompe pas d'éditeur. Et vous êtes tout récemment auteur des Sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, paru aux éditions Zone Sensible. Vous avez mené l'enquête, Frédéric Keck, dans trois pays asiatiques, trois tigres, Hong Kong, Taïwan et Singapour, avant la pandémie de Covid, mais autour de la pandémie de grippe aviaire et des moyens développés entre les hommes et les animaux, en l'occurrence les oiseaux, pour prévenir, anticiper, se préparer à ces zoonoses de plus en plus fréquentes qui franchissent la fameuse barre des espèces. Frédéric Keck, pour vous aussi, il s'agit de prendre conscience, alors pour réparer le monde, de faire appel aussi aux animaux. Ces pandémies seraient révélatrices de ce qui nous lie finalement aux autres animaux et qu'on a oublié, abîmé, enfin qu'il s'agit de réparer.
Oui, je vais réagir à la citation de Camus qui ouvre cette émission, donc le passage de la révolution à la réparation marque sans doute une phase dans la modernité où la modernité ne se constitue plus par arrachement à la nature, mais plutôt justement par prise de conscience de l'enracinement de l'humanité dans cette nature. Et j'ai envie de citer un auteur que cite également Corinne Pelluchon, qui est René Dubos, le bactériologiste, auteur de la fameuse phrase « Penser global, agir local », et qui a aussi cette phrase beaucoup citée au cours de cette pandémie de Covid, « La nature se venge ». Alors en fait, la phrase originale, c'est « La nature rend coup pour coup ». Nature strikes back, c'est l'idée que lorsque les hommes inventent une technique pour contrôler la nature, que ce soit les antibiotiques ou la vaccination, eh bien les mutations aléatoires de la nature font que de nouvelles bactéries ou de nouveaux virus émergent. Et donc plutôt justement que de faire la guerre à la nature en éradiquant ces animaux qui nous transmettent des maladies, il faut plutôt apprendre à négocier avec elle, justement en posant des animaux sentinelles qui nous envoient des signaux d'alerte sur ces maladies qui viennent de la nature.
Des animaux sentinelles, puisqu'au fond c'est eux qui sont eux aussi touchés par ces maladies ou par ces virus, ou plus ou moins. Mais c'est quoi? C'est renouveler une alliance, hein, comme Corinne Pelluchon, vous parlez aussi de changer complètement de vision par rapport à ça, de changer, d'arrêter de se battre contre, mais de dire on tisse avec, on fait avec, on se sert de sentinelle.
Oui, c'est un partage de vulnérabilité avec les animaux qui fait qu'ils sont affectés par les mêmes maladies que nous, mais avec des symptômes différents. Donc nous apprenons à lire sur les corps des animaux ces maladies qui vont ensuite frapper nos corps. Et donc ces sentinelles, c'est justement une façon d'intégrer les animaux dans la communauté humaine pour faire face à des menaces environnementales qui nous affectent en commun.
Je vais faire réagir Corinne Pelluchot sur ce que vous venez de dire, mais auparavant j'ai envie de vous faire entendre un autre éclairage autour de la question justement, est-ce qu'il nous faut des crises comme celle du Covid-19 pour qu'on prenne conscience de la nécessité de réparer le monde? C'est l'éclairage vu du Gabon, du virologue Gaël Maganga. Il est professeur et directeur du laboratoire de santé animale et humaine P4 du CIRM, enfin, le centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville au Gabon. Il travaille notamment sur et avec les chauves-souris, alors elles aussi pourraient bien être sentinelles pour comprendre leur résistance aux différents virus avec lesquels elles vivent et qui, dans notre monde abîmé, traversent de plus en plus la barrière des espèces. On écoute Gaël Maganga.
Il faut toujours qu'on soit dans une situation d'urgence. Il faut qu'on soit dans une situation pandémique pour voir les financements mobilisés, pour voir l'intérêt porté sur certaines thématiques de recherche. Mais le problème, c'est que depuis, sur ces maladies zoonotiques, on alerte toujours sur les comportements qui font qu'on expose les populations de plus en plus et à la nécessité de chercher le mal à la source. Et c'est un peu les axes de recherche sur lesquels nous travaillons, qu'on se rend compte quand même que les maladies pandémiques certaines maladies très contagieuses ont quand même une origine animale pour la plupart, voire pour la grande majorité. Et donc, avec les comportements de plus en plus à risque que les humains ont, l'anthropisation excessive des lieux, l'urbanisation galopante, la déforestation, etc., on se rend compte qu'en fait, on se rapproche beaucoup plus de plus en plus de ces animaux-là qui, dans leur habitat naturel, en fait, ne sont pas des menaces en tant que telles. Et c'est plutôt en allant de plus en plus dans ces zones que l'on s'expose à ces contaminations-là. Et donc, moi, je disais que j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait une situation d'urgence pour que les fonds soient mobilisés, parce que n'oublions pas que la recherche a d'abord besoin de financement. Alors, quand vous dites aux gens que vous voulez travailler sur la recherche de réservoirs de certains virus, etc., bon, la première chose qu'on vous dit, c'est tiens, est-ce que ces virus sont responsables de mortalité? Est-ce qu'ils sont, ils ont des prévalences importantes, etc. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce que ces virus peuvent devenir à la longue, qu'est-ce qu'ils peuvent entraîner. Et donc, moi je pense que l'intérêt, entre autres, devait être focalisé sur d'abord la recherche à la source de ces virus-là, justement, pour prévenir toutes les émergences auxquelles on assiste par la suite.
De l'importance d'étudier, de connaître, de comprendre tous ces animaux et les virus qu'ils égèrent, tout ce monde, tous ces autres, Corinne Pelluchot.
Oui, alors moi je dirais que, bon, c'est vrai que l'urgence, les crises très graves font réagir, mais quand même, il y a eu dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, des catastrophes et les humains n'ont pas tellement changé. Auschwitz, Hiroshima, et parfois, comme le dit Günther Anders, les chances sont si énormes, que justement l'humain ne veut pas voir ce que pourtant il sait, ne veut pas comprendre, n'incorpore pas cela.
Vous alors, dites que les crises ne sont pas suffisantes pour qu'on change véritablement.
Enfin, je ne dis pas ça, je dis que quelles que soient les situations, il importe d'anticiper quand même, ou du moins réparer. Le monde, c'est préparer l'avenir. Et nous avons aussi, même dans notre tradition occidentale, des outils, des sources, des ressources pour dépasser le dualisme nature-culture, raison-émotion, comme par exemple la phénoménologie qui m'inspire, moi. Donc il n'y a pas... je crois qu'il s'agit de revitaliser cela. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on a souvent tendance à penser que c'est en dehors seulement de l'Occident qu'on peut effectivement trouver les moyens de peut-être réparer ce qui a été blessé dans la civilisation occidentale, qui a été blessé profondément à partir de la révolution industrielle et d'un monde, d'une industrialisation forcenée, d'une exploitation illimitée des autres vivants et de la terre, et puis qui passe par aussi l'exploitation de certaines nations par d'autres nations et des humains par d'autres humains. Parce que moi, je crois que vraiment la crise que nous avons, elle est globale et elle est même civilisationnelle. Ça veut dire qu'elle interroge profondément le système et mais plus que le système, la manière, ce qui régit notre société en profondeur et qui me semble être lié à une domination de la nature extérieure, de la nature à l'intérieur de nous-mêmes, de la répression de nos instincts et évidemment de la domination sociale. Et
je crois domination, que c'est un mot très important dans nos rapports aux autres.
Mais est-ce que rapport c'est... à soi, au monde. Mais c'est-à-dire que cela, je le prends au très grand philosophe Adorno, le père avec Horkheimer de l'école de Francfort, qui a donné naissance à plusieurs vagues, dont Habermas, et donc au milieu des années 40, donc avec ce fracassement qu'a été le national-socialisme, eh bien, il s'interroge sur justement cette inversion du rationalisme en barbarie, ce qui a expliqué, enfin ce qui a rendu possible des choses aussi atroces qu'Auschwitz, etc. Et ce rationalisme instrumental. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons devant les yeux les désastres, à la fois sociaux, psychiques, humains, écologiques, de cette rationalité instrumentale et de ce monde devenu fou. Et effectivement, alors ça prend plusieurs formes. Et c'est vrai que ces pandémies-là, qui nous échappe, hein. Et ce fait que effectivement le fait de détruire les habitats des animaux sauvages qui sont porteurs du virus contre lesquels nous ne sommes pas immunisés, ça pointe à la fois les aberrations de nos interactions avec ces animaux sauvages et ça évidemment pointe la dangerosité de ce modèle de développement. Moi je dirais jamais que la nature se venge parce que la nature n'a pas d'âme en ce sens-là, elle n'a pas d'intentionnalité. Mais je dirais que effectivement il y a des contre-productivités et en ce moment je dirais pas que c'est une chance, hein, mais en tout cas nous devons utiliser, si je puis dire, cette crise terrible comme une occasion pour mettre à plat un certain nombre de choses. Mettre à plat et revenir sur l'ensemble des représentations et des pratiques qui causent du malheur tant aux humains qu'aux animaux qui sont massacrés, tant dans l'industrialisation pour la production de viande, de cuir, de peau, etc., que évidemment au niveau des animaux sauvages dont on détruit ou fragmente l'habitat, et aussi il y a des contre-productivités sociales qui n'échappent à personne, et mais aussi économiques. Parce que cette pandémie, elle va entraîner un chômage massif et ruiner les économies. Donc du coup, là, je crois que nous avons l'occasion de penser ce que peut être une transition écologique, c'est-à-dire un modèle de développement différent, qui soit plus soutenable, plus juste, à la fois pour les humains et les non-humains, et moins aberrant. Et donc ça, c'est vraiment reprendre en main son destin. C'est vraiment échapper à cette logique destructrice qui nous amène dans le mur et qui aussi comporte des violences politiques et géopolitiques à venir.
Alors comment échapper justement à cette violence destructrice? Comment réparer le monde? Je vais faire réagir Frédéric Keck, mais juste avant, je propose de le réparer peut-être un peu en musique et en commun, surtout avec le cœur de Bobby McFerrin, The Garden sur RFI.
There in the garden where the tree lies too.
dans le jardin collectif de Bobby McFerrin sur RFI, histoire de trouver l'inspiration autour de la question « Comment réparer le monde ?», question empruntée au titre du livre de notre invitée, la philosophe Corinne Peluchon. Nous sommes également en compagnie de l'anthropologue Frédéric Keck, auteur des « Sentinelles des pandémies », chasseur de virus et observateur d'oiseaux aux frontières de la Chine. Frédéric Keck, qu'avez-vous remarqué dans cette autre alliance, nouvelle alliance, dans ces sentinelles, dans ces liens renoués finalement entre tous les vivants? Sentinelle est un joli mot, me disait Corinne Peluchon, c'est un très beau mot, hors antenne, Frédéric Keck.
Oui, je contraste les sentinelles avec le sacrifice qui est l'opération effectivement d'abattre des animaux pour restaurer la santé humaine. Les sentinelles, ça consiste au contraire justement à faire alliance avec les animaux pour percevoir ces maladies qui nous affectent en commun. Pour revenir sur les crises sanitaires que vous discutez avant la chanson de Bobby McFerrin, moi je vois les crises sanitaires comme l'occasion de révéler publiquement une tension inconsciente ou une dissonance cognitive dans notre rapport aux animaux, puisque nous mangeons des animaux, mais nous devons oublier que ce sont des animaux pour manger leur viande. Et dans les crises sanitaires, nous nous rappelons qu'effectivement derrière le steak de bœuf ou le chicken McNugget, on a une vache ou un poulet. C'est ce qui a fait d'ailleurs la mobilisation sur la crise de la vache folle ou de la grippe aviaire, c'est-à-dire qu'on abat massivement des bovins ou des volailles pour restaurer la confiance du consommateur dans la sécurité de la chaîne alimentaire. Mais justement, on peut avoir un autre rapport aux animaux qui consiste à les inclure dans la surveillance, hein. Donc c'est ce travail que font les vétérinaires au quotidien, qui consiste justement à essayer de percevoir sur les animaux ces maladies. Et donc pour les percevoir, il faut que ces animaux soient vivants. Donc on retrouve l'animal vivant derrière l'animal considéré comme un morceau de viande ou une marchandise.
C'est ça, c'est vraiment, vous le dites d'ailleurs aussi dans votre ouvrage, Corinne Peluchon, réparer le monde, c'est pas bricoler, c'est pas réparer les morceaux, c'est défendre le vivant, mais tout le vivant. Il y a cette notion-là.
Pas les virus, c'est pas biocentriste, mais disons que c'est défendre les vivants, protéger la biosphère, les végétaux, mais effectivement j'accorde une importance particulière à ces vivants sensibles, même sentients, c'est-à-dire qui éprouvent leur vie.
C'est vos mots, hein, sentients.
Enfin, c'est pas le mien. Mais,
oui, mais qui est un mot magnifique, qui dit ceux qui ont de l'empathie pour les autres, qui ressentent les autres.
Le sentient, c'est plutôt le fait d'éprouver sa vie à la première personne, c'est-à-dire que c'est pas seulement une réaction ou même un rapport dialectique au milieu, comme la plante, c'est vraiment l'idée que ça se passe bien ou mal et c'est vécu à la première personne. L'animal est une conscience, c'est pas une conscience représentationnelle qui se dédouble, se voit vivre à cette aussi la, alors que nous humains, évidemment, la représentation détermine nos désirs, nous sommes vraiment des consciences représentationnelles, etc. Mais les animaux, toujours au pluriel, sont quelqu'un à chaque fois, et ils vivent leur vie à la première personne, sont des êtres individués, vulnérables, qui ont même une agentivité, qui sont compétents pour élever leurs petits et vivre selon leurs normes propres. Bon, la plupart du temps, nous les détenons dans des conditions qui les condamnent à la non-expression de leur sens et qui leur imposent une vie diminuée et une vie misérable. Et pour moi, cela, c'est pas seulement un problème moral, ça soulève un problème de justice, car ça pointe le caractère, le fait que nous nous octroyons une souveraineté absolue.
Nous, les humains, vous avez prononcé le mot dominance, donc sur les animaux. Domination, sur les animaux, sur la terre, sur nos ressources, sur les systèmes écologiques. Dominance aussi sur les autres êtres humains. Enfin, tout est lié. Et quand même, quand on vous entend, Corinne Peluchon, quand on entend Frédéric Keck, on entend aussi qu'il y a une vraie remise en question derrière cette réparation du monde. Il y a une mise à plat, dire ce qui ne fonctionne pas, oui. Et notamment une course éperdue à la consommation, au profit. Enfin, que là, il y a quand même quelque chose qui est proprement fou.
Oui, alors, c'est c'est vrai, il y a une remise en question radicale d'un certain nombre de représentations ancrées qui sont peut-être un peu le vice de notre civilisation. C'est ce que disait d'ailleurs le grand Claude Lévi-Strauss. On a commencé par séparer l'humanité de l'animalité et à cela, à oublier que l'humain était un autre vivant, et en cela on ouvrait un cycle maudit pour ensuite n'accorder qu'à une humanité toujours restreinte des droits, etc. Mais je crois, moi, qui suis pourtant humaniste, mais un humanisme nouveau peut-être, en tout cas, qui n'est pas fondé sur l'amour propre, pour reprendre encore l'expression de Claude Lévi-Strauss.
Qui englobe le...
Oui, enfin, qui englobe, mais l'humain est quand même particulier, parce qu'il a la responsabilité d'autres êtres, il peut se projeter dans d'autres vies, alors que nos animaux, n'ont pas cette capacité-là à être responsables d'êtres qui ne vivent pas encore ou qui sont loin de leur regard. Mais je crois qu'il y a le côté de dénonciation, de remise en question radicale, le côté déconstructif. Il y a une déconstruction de tout un tas de frontières morales que nous avons tracées, de dualisme, mais il y a aussi, ça c'est la bonne nouvelle, une chance extraordinaire de penser notre être avec les autres et notre être à la nature. Le fait que le monde est aussi composé d'un patrimoine naturel et culturel, qu'il est ainsi hybride, et que justement notre vie a une épaisseur, nous ne vivons pas seulement pour nous, mais nous sommes accueillis à notre naissance par un monde plus vieux que nous, fait de plein de choses naturelles et culturelles, et qui, j'espère, survivra à notre mort individuelle. Et c'est peut-être cela la responsabilité, transmettre ce monde commun, et moi c'est ce que j'appelle la considération, qui est une manière de se penser un peu autrement, en tout cas pas comme un empire dans un empire. Et là encore, je crois qu'on rectifie ce faisant un certain nombre de dualismes, parce que la domination, par exemple, c'est, je crois que cette posture du despote, de l'humain despote, de la nature et des autres vivants, c'est quelque chose que moi je ferais remonter surtout à la révolution industrielle, mais pas, par exemple, il n'y a pas ça chez Descartes, hein, parce que je le dis, parce que souvent Descartes est accusé de tous les maux.
De l'homme-machine, voilà. Ou c'est ça, où on remonte dans ce cas-là à ces philosophes-là de l'Occident.
Sauf que Descartes, pour lui, seul Dieu et cause finale. Et quand on pense que la terre et les cieux ont été faits pour l'homme, alors on entre dans une série de fâcheries, dit-il. Donc, alors évidemment, il a sa théorie de l'animal-machine, il est dualiste, c'est une épistémologie comme ça, qui évidemment ne convient pas. Il n'y a pas cette réflexion sur la corporéité, la vulnérabilité, et justement la sentience, on dirait aujourd'hui, animale. Mais il n'y a pas, je crois que, par exemple, chez saint Thomas ou chez les chrétiens, l'humain est le jardinier de Dieu. Donc il n'y avait pas cette posture d'un être qui croit que finalement la nature est un stock de ressources, les autres vivants sont de la viande sur pâte, et qu'il peut finalement avoir un comportement de prédation et ne pas assigner de limites à son bon droit au nom du droit des autres à exister. Et donc ça, je pense que c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut repenser les choses aujourd'hui.
On va y revenir, hein, et comment repenser les choses aujourd'hui, mais Frédéric Hayek, évidemment, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus, d'autant que Corinne Pelluchon citait Claude Lévi-Strauss, et puis on pense aussi à Philippe Descola, avec qui vous travaillez, vous menez vos recherches, évidemment. Donc je veux bien avoir votre réaction.
Oui, ce que je retiens de Claude Lévi-Strauss, c'est justement qu'on peut penser la réparation comme un bricolage, à condition justement de réhabiliter les savoirs des sociétés dites sauvages, qui justement arrivent à faire avec des classifications des animaux. Et de ce point de vue, c'est vrai que mes sentinelles évitent de se poser la question de ce que pensent les animaux. Parce que justement, je m'appuie sur la métaphore du chasseur de virus. Les sociétés de chasseurs font comme si elles pouvaient prendre le point de vue de l'animal pour le chasser. Et en même temps, au moment où elles tuent l'animal, les humains savent bien qu'ils ne sont pas des animaux. Donc, c'est aussi une réhabilitation de ces savoirs des sociétés de chasseurs. Qui consiste à bricoler avec les animaux.
À faire autrement, c'est-à-dire à leur accorder une vraie place. Quand vous dites bricoler, c'est pas leur accorder une conscience, une pensée véritablement, mais c'est leur accorder une vraie place et un vrai point de vue.
Oui, on leur accorde un point de vue, et ça suppose d'avoir conscience que son propre point de vue est fini et limité.
Ouais. Eh bien, écoutez, je sais qu'on va vous laisser, Frédéric Keck, réparer le monde, si j'ose dire, ou réfléchir, continuer à ses réflexions, à anticiper, à développer une autre cohabitation homme-animaux-nature, comme celle que vous nous faites d'ailleurs découvrir, Frédéric, dans votre ouvrage « Les sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine », paru aux bien nommées éditions Zone Sensible à Bruxelles. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Frédéric Keck, autour de la question « Comment réparer le monde ?» sur RFI, pour continuer de tisser, de retisser nos liens les uns avec les autres. Je propose de méditer sur cette chanson d'Alain Bachon qui devrait encore nous rapprocher tous les trois, j'ai envie de dire, en tout cas tous les deux, Corinne Peluchon et Frédéric Keck. On écoute What's in a Bird.
What's in a bird? Body, what's sur la tête? Reconnais que je suis volage. What's in a bird? Ça me fait convoler, éperdument juste un os. What's in a bird? Demain j'arrête la flûte, j'aimais pourtant tous azimuts. What's in a bird? À part les échimaux, c'est purement psychosomatique. Mais nous savons, sans doute nous à la cure. Petit à petit, l'oiseau.
What's in a Bird, Alain Bachon sur RFI. Nous sommes en compagnie de la philosophe Corinne Peluchon autour de la question empruntée à votre ouvrage « Comment réparer le monde ?» Alors je ne sais pas si Bachon y répare ou pas, mais en tout cas il fait du bien par où ça passe, hein, Corinne Peluchon.
Oui.
Et tout ce qui fait du bien finalement à notre réflexion, à notre envie de réparer le monde, c'est bon à prendre. Vous êtes tout de même, Corinne Peluchon, en philosophie, une voix engagée hein, pour défendre la cause animale, la transition écologique, la cause environnementale, mais sans jamais basculer, ce que je trouve assez remarquable, du côté de la morale, enfin du moralisme, c'est bien, c'est pas bien, les bons, les méchants, ni non plus du catastrophisme. Comment vous faites, justement? Parce que c'est ça qui... Mais même réparer le monde, enfin voilà, même s'il faut faire le constat que c'est... que le monde est abîmé, que nous sommes abîmés, que ça date d'il y a longtemps, mais qu'il n'y a pas un responsable à montrer du doigt, qu'il n'y a pas une bonne attitude à adopter, mais que tout ça, c'est en chemin que ça se fait, et ensemble, c'est pas mal. Et c'est quand même des voix qu'on entend peu aujourd'hui.
Alors, ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que moi, c'est vrai que parmi les motifs profonds de mon travail, beaucoup sont inconscients bien sûr, mais il y en a un qui est celui de la reconstruction. Il y a un parti pris de la reconstruction. Alors évidemment, en disant cela, ça veut dire que j'ai conscience de la fragilité des choses humaines, de la fragilité de la démocratie, de, je viens de ça d'ailleurs, hein, de ces auteurs philosophes juifs allemands des années 30 hein, qui ont pris en pleine figure, hein, le national-socialisme, et puis de la fragilité, de la vulnérabilité, de la mortalité, de tout ce dont je vis et qui n'est pas donné forcément, hein, donc cette précarité. Mais effectivement, moi je crois que on a assez critiqué la modernité, on sait diagnostiquer ce qui ne va pas, je crois. Alors on peut aller plus profondément, je crois qu'il faut aller plus profondément, ce que ne fait pas l'idéologie qui en reste seulement la dénonciation de systèmes politique ou économique. Je crois qu'il faut remanier nos représentations comme on l'a fait tout à l'heure en compagnie de Frédéric Keck, c'est-à-dire en posant la question de notre rapport aux autres humains et non humains, au corps, à la mortalité, à nos limites, à la finitude. Et ça, c'est vraiment profond pour penser une autre manière d'être et d'agir. Donc ça, c'est vraiment important. Mais je crois que il y a ce volet constructif qui me semble-t-il manque à l'époque moderne et même postmoderne, qui, l'époque postmoderne, elle a été très importante pour déconstruire le caractère hégémonique du rationalisme, pour dénoncer le colonialisme, pour dénoncer tout un tas de, finalement, d'illusions de la modernité. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, c'est ça. Et, voilà. Et qu'est-ce qu'on défend ? Moi, je me suis posé
qu'est-ce
la question,
défend
après les attentats, pendant cette crise, voilà, pendant d'autres crises,
qu'est-ce
que j'ai à défendre ? Et moi aussi, en tant que occidentale, parce que finalement, on se tourne vers l'Orient, on se tourne vers les Suds, qui ont vraiment des choses à nous apprendre. Il y a une dominance de l'Occident monstrueuse. Mais qu'est-ce qu'on a ? On a aussi des ressources et on a des valeurs à défendre.
Tout à fait. Alors, les droits de l'homme, la liberté de penser, l'arrachement au joug aliénant de certaines traditions, la liberté de penser, l'activité critique et le fait de vivre avec des êtres qui ne pensent pas comme soi, le pluralisme. Hein. Vous avez parlé de mon engagement animaliste. Bon, moi, je suis végane, une végane imparfaite, mais néanmoins. Donc, c'est quand même une minorité. Bon, eh bien, je suis quand même habituée à vivre avec des personnes qui n'ont pas les mêmes modes de vie que moi et qui, surtout, n'ont pas les mêmes opinions que moi, bien que je me rende compte que, quand même, de plus en plus, ils deviennent sympathiques à ma cause. Bon, en tout cas, donc, il y a l'effort, quand on veut vivre dans une démocratie fondée sur le pluralisme et où il n'y a pas un chef qui va dicter le bien et le mal, eh bien, on doit trouver des accords, négocier, des accords sur fond de désaccord et des pistes communes qui, à mon avis, existent et qui, déjà, changeraient beaucoup le monde, et c'est ce que j'essaie de dire. Mais je voudrais insister sur quelque chose que vous avez pointé. C'est les ressorts du changement, des changements de style de vie, des changements de la transformation de soi, de sa vie, et des changements politiques. Eh bien, moi, je crois que l'estime de soi, le fait de montrer aux personnes qu'ils peuvent, non pas qu'elles sont impuissantes, mais qu'elles peuvent, qu'elles ont de l'estime d'elles-mêmes, ne pas seulement les culpabiliser, pointer leur impuissance, qui finalement génère des comportements renforçant leur résistance au changement. Quand on vous dit du matin au soir vous êtes nul, que vous faites mal, que vous ne pouvez rien, forcément, ou vous vous enfermez dans le déni pour survivre, dans le présentisme, en tout cas vous ne changez pas. Au contraire, si on vous aide à voir comment vous, ici et maintenant, avec votre rythme propre, vous capacité propre, vous pouvez faire une différence, hein, make a difference, hein, comme on dit aux États-Unis, faire une différence, changer les choses dans l'alimentation, dans l'élevage, avec vos voisins, et bien du coup, vous avez une estime de vous-même qui est le moteur principal du changement, surtout quand ces changements sont importants, engagent les modes de consommation alimentaire, les modes de loisirs, les modes de production et l'économie. Parce que moi, je cherche à l'avenir, même si je ne les vois pas tous de mon vivant, je souhaite des changements assez drastique, d'un changement de modèle de développement qui on peut le dire, mais c'est pas idéologique dans ma bouche, mais qui destitue le capitalisme, qui est pas seulement un modèle économique, mais qui a colonisé nos imaginaires et qui fait que on se sent nul quand on possède pas, ou qui a installé la compétition au cœur des âmes et des cœurs. Donc ça, cette destitution là, elle est importante, elle demande de déconstruire des choses, mais elle s'appuie sur peut-être ce qu'il y a de meilleur en l'humain.
Et pas, elle ne s'appuie pas, c'est là où vous faites la différence, et d'autres également, elle ne s'appuie pas sur l'idée de la catastrophe, la collapsologie ou les collapsologues. J'ai envie de vous faire écouter un extrait de l'entretien accordé par le philosophe que vous connaissez, Jean-Pierre Dupuis, professeur à Stanford, formidable penseur de ce qu'il a appelé le catastrophisme éclairé, dans la lignée du philosophe Gunther Anders, que vous appréciez particulièrement, de Karl Jaspers. Écoutez voir comment Jean-Pierre Dupuis défend précisément ce catastrophisme éclairé au micro de mon confrère sur France Inter, Mathieu Vidard.
Quiconque tient une guerre imminente pour certaine contribue à son arrivée, précisément par la certitude qu'il en a. Quiconque tient la paix pour certaines se conduit avec insouciance et nous mène sans le vouloir à la guerre. Donc, les deux certitudes, là, pessimistes et optimistes, sont à éviter complètement. Seul celui qui voit le péril et ne l'oublie pas un seul instant se montre capable de se comporter rationnellement et de faire tout son possible pour l'exorciser.
C'est ce que vous défendez,
ben oui, c'est
précisément.
Ce que j'ai appelé ma forme de catastrophisme.
Ouais. Catastrophisme éclairé.
Oui, hein. Oui, c'était le mot important, éclairé.
Mais votre formule a été reprise par les collapsonautes, justement.
Oui, et par bien d'autres.
Et ça vous embête aujourd'hui?
Ben, je ne l'utilise plus moi-même parce qu'elle a été tellement mal comprise, puisque des deux côtés, et d'autres côtés encore, on m'a fait dire que le catastrophisme éclairé consistait à tenir la catastrophe pour certaines, ce que je n'ai jamais dit, car ce serait absurde de le dire. Et ils le reprennent. Bon.
En tous les cas, votre ami Jean Jouzel, hein, grand climatologue, évidemment, que tout le monde connaît, dit « il ne faut pas clore l'avenir ». Ça rejoint aussi cette citation.
Mais bien évidemment, si on dit que ça n'est pas certain, eh bien c'est que, si vous voulez, le prophète de malheur, bon, on peut penser au prophète biblique, n'est-ce pas, pour être un prophète utile, aller
dans
le bon sens...
Il trouve des solutions.
Mais il faut qu'il soit un faux prophète. Mmh. Non, il faut qu'il soit un faux prophète. Il faut qu'il annonce le malheur pour que le malheur ne se produise pas. Mmh. N'est-ce pas? Bon, et pour ça, il faut tenir compte de l'effet de sa parole sur les gens eux-mêmes. Mais si on dit quoi que fassent les gens, c'est-à-dire nous, eh bien, l'effondrement est certain et se produira avant 2030.
Ça, c'est clore l'avenir.
Mais on clôt l'avenir. C'est exactement ça, la critique.
Ne pas clore l'avenir, c'est ça hein, votre démarche, Corinne Peluchon.
Ah oui, alors je partage totalement ce qu'a dit Jean-Pierre Dupuis. Hein, et pour parler de Günther Anders, qui est quand même celui qui a porté le catastrophisme, c'est vrai que la différence majeure entre la collapsologie et le catastrophisme de Jean-Pierre Dupuis ou de Günther Anders, c'est que les collapsologues disent que la catastrophe va arriver, il faut s'y adapter, alors que l'anticipation de l'avenir et l'anticipation du pire, comme dit Günther Anders, doit éviter de le produire. Mmh. Il exagère. Hein. Justement, ce qui est très intéressant chez Günther Anders, c'est qu'il dit que quand il y a des choses...
après Hiroshima, principalement autour de la question du nucléaire.
Et Auschwitz. Et quand les choses sont tellement grandes et irreprésentables, qu'elles échappent à notre capacité de représentation, alors il faut exagérer et il faut faire jouer l'imagination, donc il faut user de la fiction, afin que les êtres puissent élargir leur vie, leur représentation du temps et de l'espace, envisagent justement les conséquences lointaines de leurs actions ou des techniques sur des êtres dont ils ne voient pas le visage et qui vivront bien après eux. Et pour ça, eh bien, il faut ces artifices-là, et l'anticipation du pire est une manière de réveiller, mais pour qu'ils soient libres, pour qu'ils réagissent.
C'est ça.
C'est surtout pas pour en leur disant ça va arriver. Et donc ça, c'est vraiment. Et là d'ailleurs, moi, c'est vrai que. Alors, je n'ai absolument rien contre les collapsologues, qui sont des gens charmants, qui font un bon travail, mais je trouve que leur succès est bienvenu, mais c'est toujours un peu dommage qu'on caricature ou du moins qu'on aille vers le facile, vers la simplification, quand. Alors que, par exemple, chez Günther Anders, il y a une pensée extrêmement subtile pour nous apprendre à justement être plus libres, à éviter d'être justement ce qu'il appelle des enfants, des fils d'Eichmann, c'est-à-dire ceux qui collaborent au mal sans pourtant le vouloir, mais qui justement fonctionnent comme des robots parce que justement ils n'ont pas utilisé, ils n'ont pas exploité cet échec de notre capacité de représenter ce qui est trop énorme comme une chance pour élargir leur vision du temps et agir de manière responsable. Donc c'est là la grande différence entre l'idéologie et la philosophie. L'idéologie, elle peut être simplificatrice, elle peut être utile, hein, et les collapsologues sont utiles, les gens le lisent, c'est des repères, malheureusement les gens ne lisent pas les livres compliqués, ils préfèrent les livres plus faciles. Bon.
Ils préfèrent peut-être, mais en tout cas c'est assez démoralisant, et il faut, pour donner Günther envie Anders de faire aussi. Autre chose, c'est vrai, mais pour donner envie de faire autre chose, on peut voir le pire en face, mais si le pire est certain, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout
Alors, les collapsologues ont quand même un petit programme pour agir. Bon, moi, je pense que ce qui est important, c'est quand même la liberté de penser, ne pas clore l'avenir, c'est-à-dire que personne ne peut savoir quel sera le monde de demain et comment les êtres vont réagir. Et je crois qu'il faut s'adresser à l'intelligence des personnes et aller les chercher là où elles sont pour leur donner envie, là où elles sont, avec leurs ressources et leurs traditions propres, d'inventer des modes de vie, d'inventer des modes de production. Et là, je m'adresse aussi à votre public, à notre public, hein, qui sont dans d'autres pays que la France. Eh bien, moi, je crois que la transition écologique, ça a quelques impératifs, mais chaque culture, chaque région même, Et chaque personne est amenée, invitée à s'approprier un certain nombre d'idées et à les mettre en place à sa guise, à sa manière et à son rythme. Et parce que moi, je crois que les changements qui ne sont pas faits de manière libre et avec le sentiment de fierté qu'ont les personnes, eh bien, ça ne dure pas. Ça ne dure que le temps d'une fête ou le temps d'une déclaration dans les médias où les gens sont contents d'eux.
C'est-à-dire, vous utilisez le mot liberté, hein, et à juste titre, c'est une question de liberté, de responsabilité, vous parlez de fierté, c'est aussi d'être vraiment pleinement humain, enfin, et pleinement conscient de ce qu'on fait, réparer, on l'a dit, commencer par un constat qu'on est abîmé, enfin, la vulnérabilité, c'est de tout prendre, quoi.
La liberté, elle n'est pas opposée à la responsabilité. Pour moi, c'est une liberté investie. C'est une liberté qui n'est pas seulement l'indépendance. Vous savez, en allemand, il y a Willkür, l'arbitraire, Wille, la volonté. C'est une liberté pour et pas seulement contre. Et c'est une liberté qui est avec les autres. Comme disait Ricoeur, vivre avec les autres, vivre avec et pour les autres dans des institutions justes. Il y a au cœur, au sommet finalement de l'émancipation et peut-être de la liberté, il y a ce qu'il appelle l'attestation. De quelle valeur je me rends garant? Et je ne suis pas seule au monde. Donc il y a l'idée aussi de contribuer à sa manière, toujours modeste finalement, à réparer le monde et à préparer l'avenir.
D'ailleurs, dans un de vos derniers chapitres, enfin votre dernier gros chapitre, est consacré magnifique à la vieillesse ou l'amour du monde. Enfin, où voilà, la vieillesse est souvent perte d'autonomie, c'est voilà, mais ça n'est pas non plus l'avenir n'est pas clos et certainement pas parce qu'on vieillit.
Bah, c'est-à-dire que l'autonomie n'est pas la performance.
C'est
pas seulement l'autodétermination, la performance de quelqu'un d'un athlète. Hein. C'est le fait d'avoir des désirs et des valeurs. Alors c'est vrai, quand on a des déficits cognitifs, on ne sait pas toujours comment les traduire dans les actes. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que la manière dont nous traitons les grands vieillards est pointe le type de société dans lequel nous sommes. Donc c'est un reflet, c'est un miroir.
Et il y aura une autre manière de faire. Avec, quand on parle d'interdépendance, ben oui, il y a quand même le mot de dépendance dedans, interdépendance.
Oui, et puis il y a aussi quelque chose qui est au cœur de la réparation du monde, c'est la continuité entre les générations. Mmh. C'est-à-dire dire que même s'il y a des changements importants, voire drastiques, ils ne font pas table rase du passé. C'est pas l'idée justement du grand soir, qui est quand même une figure pour moi de la toute-puissance, de l'orgueil. Eh bien, c'est l'idée qu'on doit... On va reprendre les restes de la tradition, hein, comme dans les restes d'un vous voyez, dans les restes d'un plat.
Faire autre chose.
Et on va faire un bon plat, voilà. Et ça, ma grand-mère faisait ça et cuisinait très bien. Et puis, il y a l'idée de sauver la continuité des générations. Parce que, bon, je sais qu'on a beaucoup parlé de Greta Thunberg, qui est très jeune, mais moi, je pense que les jeunes, il ne faut pas les laisser dans la peur seulement, ni dans l'indignation, car avec la peur et l'indignation et le désespoir, on ne construit pas. L'espérance est un désespoir surmonté. Je cite dans ce recueil « Réparons le monde » Bernanos, et je trouve que c'est très profond, et en tout cas, moi, ça résonne en moi. Et c'est vraiment ça, c'est ce chemin-là, et du coup, c'est pourquoi, pour moi, l'écologie, non seulement n'est pas contraire à l'humanisme, c'est un autre humanisme, bien sûr, mais elle est un projet d'émancipation et demande non pas moins, mais plus de liberté intérieure, mais aussi politique.
Merci infiniment, Corinne Peluchon. Quelle magnifique conclusion. Merci d'être venue en direct pour nous inspirer, à nous inciter à réfléchir et à continuer à transmettre, justement, même si ce sont à faire de très belles recettes avec tous nos restes. Hein. C'est ça. Je rappelle le titre de votre dernier essai. Donc, paru en poche, que je me trompe pas, aux éditions Rivage, Petite Bibliothèque Payot. Hein, c'est ça. Pour la somme modique de 8,80 €. C'est assez peu pour le être signalé et qui s'intitule donc Réparons le monde, humains, animaux, nature. Merci infiniment, Corinne.
Merci à vous.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur vos applications favorites, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. On vous donne rendez-vous demain autour de la question, comment la science infuse et se diffuse, en compagnie de nos consoeurs et confrères de la presse scientifique qui viendront, vous le savez, chers amis auditeurs et auditrices, avec quelques exemplaires de leurs magazines respectifs pour vous les faire gagner. Avis aux amateurs de lectures estivales et scientifiques. Surtout, restez curieux, gardez l'esprit libre libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.